Alors, si vous voulez vous lever, on va lire la parole de Dieu. Apocalypse, chapitre 16, versets 12 à 21. Apocalypse, chapitre 16, versets 12 à 21. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent plus retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors, je dois vous dire que j'ai beaucoup aimé l'étude de ce passage-là d'une façon particulière. Pour la simple et bonne raison qu'on arrive au sixième et au septième ange et on arrive au dénouement. Le Seigneur est en train de nous montrer vers la fin du chapitre 16 que les chapitres qui vont suivre vont être la destruction systématique du royaume du malin, que ce soit dans son aspect politique ou dans son aspect religieux. Alors, j'ai beaucoup apprécié cette étude-là parce que ça a quelque chose d'encourageant. Et plus particulièrement, le verset 15. On le relit, le verset 15, juste pour le plaisir de le relire, on va le revoir plus tard. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Très beau verset parce que t'es en train de nous dire qu'à un moment donné, le Seigneur va dire exactement les mots qu'on vient de lire. Voici, je viens comme un voleur. Un voleur, si vous avez une maison, ceux qui ont des maisons, que ce peu importe que ce soit une maison ou un logement, ça n'a pas d'importance. Un voleur, quand il veut voler chez vous, il ne vous lâche pas un coup de téléphone avant pour vous dire, eh ben là, je m'en vais chez vous. Là. C'est soudain, c'est inattendu, c'est imprévisible. Le Seigneur nous dit que quand on va arriver proche du sixième et de la septième coupe, la même chose va arriver. Ça va être soudain pour tous, pour nous, comme pour le monde en général. Les gens ne s'attendront pas à ça, c'est pas prévisible. C'est ça qui est encourageant. Le Seigneur, il dit « heureux ». Et on va regarder ce passage-là un petit peu plus loin plus tard. Moi, je l'ai trouvé très encourageant, parce qu'à partir quand il commence à nous expliquer... OK, il y a les rois de l'Orient qui préparent le chemin. Il va y avoir le grand rassemblement. Et là, le Seigneur va faire son grand jugement final. Après ça, à partir du chapitre 17, on voit le Seigneur qui accomplit la destruction du royaume du malin. C'est une jouissance, parce que quand on regarde qu'est-ce que le malin est en train de faire, plus on se tient au courant de ce qui se passe sur la terre, plus on se rend compte que le malin, actuellement, son œuvre semble fructifier et atteindre des sommets qu'on n'a jamais vus. La Bible nous dit que dans la fin des temps, la méchanceté des hommes va augmenter. Et si on ne le voit pas, c'est parce qu'on ne veut pas le voir. C'est tellement gros, là. Et le Seigneur dit qu'à un moment donné, ça va être assez, et il va mettre la masse, comme on dit, le juge, la masse va tomber, et là, ça va être terrible. Ce qu'on a lu tantôt, on lit rapidement, mais quand on s'arrête à vraiment à réfléchir à ce qu'il est en train de nous dire, les villes qui vont se détruire, on va regarder ça dans le détail, ça va être sévère, là. Très sévère. Alors, j'ai simplement appelé aujourd'hui la sixième et la septième coupe de la colère de Dieu, prépare et précise le jugement dernier. Alors, on va regarder trois idées à l'intérieur du texte. Le jugement divin, qui est prédéterminé. C'est important de faire le lien, parce qu'on pourrait très bien étudier le passage d'aujourd'hui sans relier rien à l'Ancien Testament puis aux prophéties que le Seigneur a faites dans l'Ancien Testament, concernant que, quand il y a eu la chute, Satan avait l'air de gagner, il a introduit le péché dans le monde, avec toutes les conséquences énormes qu'on vit de tous les jours. Mais en même temps, dans Genèse 3:15, il a dit quelque chose. Si on ne fait pas le lien entre ce qui est en train d'arriver dans Apocalypse 16 et tout ce qui a été dit auparavant dans les Écritures concernant le Messie, on manque le bateau un petit peu, j'ai voulu faire le lien. C'est sûr que si on voudrait vraiment faire un lien solide, il faudrait retourner dans Genèse et dans tous les livres où on parle de Christ et comment le Seigneur a travaillé l'histoire des hommes, l'histoire d'Israël, l'histoire des hommes, et depuis la venue de Jésus-Christ amené jusqu'à aujourd'hui. C'est gros, c'est toute l'histoire de l'être humain. Alors, le jugement divin est prédéterminé. Je voudrais qu'on fasse juste une petite connexion avec ce que le Seigneur avait donné dans les prophéties bibliques pour qu'on fasse le lien. Autrement dit, ce qui est en train d'arriver, ce qui va arriver à la fin des temps, c'est ce que le Seigneur avait déjà déterminé dans l'Ancien Testament et dans tous les livres de la Bible, alors sans exception. La deuxième idée qu'on va regarder, c'est que le jugement divin est préparé. Versets 12 à 16, il est en train de nous dire qu'il va arriver un moment où les rois de l'Orient, tout à l'heure on va essayer de déterminer un petit peu qui ça peut être, les rois de l'Orient, et il va aller chercher tous les rois de la terre, et ils vont rassembler dans le but de détruire l'Église. Et c'est le Seigneur qui permet ça dans sa providence, que tous ces événements-là arrivent, mais le but final, c'est de les détruire eux-mêmes. Alors, eux voulant détruire l'Église, par l'événement même qu'ils vont faire, de vouloir détruire l'Église, c'est le moyen que le Seigneur va utiliser pour les détruire. C'est un passage extraordinaire quand on s'arrête à l'étudier un petit peu, le moindrement, parce que c'est un grand encouragement. Et la troisième idée, c'est que le jugement divin est précisé. Versets 17 à 21, on rentre dans le fameux Armageddon. Là, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on croit que c'est, d'où ça sort historiquement dans la Bible, les grandes guerres. Il y a eu des grandes guerres d'Israël qui ont eu lieu à cet endroit-là. Et le Seigneur a voulu qu'on utilise l'image de Armageddon, où il y a eu des grandes guerres spirituelles, pour nous présenter la grande guerre spirituelle qui va avoir lieu à la fin des temps. C'est très sage. Hein? Tout ce que le Seigneur écrit, c'est tout plein de sagesse. Une chose qu'on veut faire dans l'introduction, ceux qui ont les notes, j'ai voulu vous rappeler que le pasteur et commentateur Herman Oxema fait une remarque importante. Moi, durant toutes mes études que j'ai faites du livre de l'Apocalypse, depuis le début, quand un pasteur, lui a prêché, je pense qu'il a prêché deux, je ne sais pas, trois fois devant sa congrégation l'Apocalypse. Alors, il a étudié l'Apocalypse. Quand il nous dit, voici quelque chose d'important à considérer si tu veux vraiment bien comprendre et bien interpréter le passage. Quand quelqu'un nous dit quelque chose comme ça, moi, je fais toujours attention parce que je me dis, il y a plus d'expérience que moi, il y a plus de connaissances que moi. Puis il dit, fais attention comment tu interprètes parce que tu peux faire des erreurs monumentales. Voici ce qu'il dit. Il dit, nous ne devons pas nous tromper sur l'élément temps dans ces sept coupes de colère. Il faut surtout vous avertir une fois de plus de ne pas considérer ces sept coupes comme étant strictement successives. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Parce que quand on regarde les coupes, on a des noms et on est porté à penser que, OK, il va arriver à la première, ensuite il va arriver à la deuxième. Quand la deuxième va être arrivée, il va arriver à la troisième. C'est ça qu'on veut dire par successif. Il dit non. C'est pas successif. C'est des choses qui peuvent avoir arrivé en même temps. Puis durant toute l'histoire, les choses se répètent. Lui, il voit l'histoire humaine plus comme cyclique que comme successive. Très important parce que si tu ne le vois pas, à quelque part, tu vas dire « Oh, là, on est rendu à quatrième, là, c'est la cinquième qui s'en vient. » Alors qu'il y a des choses qui se sont travaillées de façon simultanée durant tout le cours de l'histoire. Alors, c'est ici la grande différence entre l'interprétation, qu'on pourrait dire réformée, et l'interprétation dispensationaliste. L'interprétation dispensationaliste vont dire que à partir du chapitre 4, l'Église est enlevée et tout le reste du livre de l'Apocalypse ne s'applique pas aux chrétiens. Nous, on croit que c'est une erreur, une grande erreur. Alors, c'est important de réaliser cela. Alors, ici, c'est important de deux choses, l'élément temps, puis l'élément que ces sept coupes-là ne sont pas strictement. Quand il dit strictement, dans un certain sens, il y a une certaine succession, mais ils ne sont pas strictement. Le mot strictement est... Il dit, ainsi, il n'est pas nécessaire que la première de ces sept coupes soit terminée avant que la seconde ne soit versée. Que la troisième doit attendre que la seconde ait fait son effet. La quatrième pour l'accomplissement de la troisième. Alors, on comprend ce qu'il veut dire. Nous devons plutôt concevoir ces sept coupes comme étant sur la terre en même temps, de sorte que toute leur misère se combine finalement en un seul grand effet. Et quand il y a un autre grand commentateur de l'Apocalypse dit la même chose, à quelque part, tu dis, ils doivent avoir vu quelque chose d'important. Alors, William Hendrickson, lui aussi, écrit un commentaire sur l'Apocalypse. Voici ce qu'il dit, lui, concernant la sixième coupe. Celle-ci, comme les précédentes, et à la différence de la septième, qui est le jugement dernier, se répète constamment au cours de l'histoire. Autrement dit, tout ce qui est en première, deuxième, troisième, c'est arrivé au premier siècle, première, deuxième, troisième, c'est arrivé au deuxième siècle, première, deuxième, troisième, quatrième. Autrement dit, ça s'est déroulé tout au long de l'histoire, cette histoire-là. Et non pas, selon l'interprétation dispensationaliste, ça va arriver juste aux non-chrétiens, parce que eux autres, ils disent que l'Église a été enlevée. Et que si l'Église est enlevée, ceux qui vont vivre ça, c'est juste les gens du monde. Nous, on dit non. Alors, il dit qu'il se répète constamment au cours de l'histoire, mais comme les autres coupes, elle ne sera pleinement réalisée qu'à la veille du dernier jour. Autrement dit, ça s'est répété au cours de l'histoire, mais pour que ça se complète véritablement, il faut que le dernier grand jour du Seigneur soit arrivé, le jour du jugement dernier. C'est important. Alors, on va juste faire une petite brève révision de tout ce qu'on a vu concernant les coupes depuis qu'on a commencé à étudier le livre de l'Apocalypse. Alors, on rappelle certains faits qui concernent les sept coupes. Les quatre premières coupes concernaient des plaies sur la nature. C'est très important de réaliser que les quatre premiers, ce n'est pas sur l'homme, c'est des choses qui arrivent. La terre, la mer, c'est des choses qui sont extérieures à l'homme. La cinquième, elle, est versée sur le trône de la bête, le trône de l'Antichrist. Autrement dit, il va arriver un moment donné où le jugement ne sera plus sur la nature, mais le Seigneur va l'envoyer sur le trône de l'Antichrist. Le trône, c'est l'endroit où tu règnes, l'endroit où tu établis tout ce qui se passe sur la terre. Sur son trône, il dit qu'il va envoyer les ténèbres là. Autrement dit, je pense qu'il est en train de nous dire que le Seigneur va juger le trône de l'Antichrist en faisant en sorte qu'ils se produisent beaucoup de choses, qu'ils ne se comprennent plus entre eux autres et que leur plan ne fonctionne plus parce qu'il n'y a plus rien. Autrement dit, c'est le free for all, comme on dit. Le Seigneur va faire en sorte que le trône va être dans la cinquième plaie. Alors les chrétiens, alors que les chrétiens sont réduits à la pauvreté et à la misère, le malin semble avoir le contrôle absolu sur le commerce, l'industrie, la science, les arts, la philosophie et la religion. Les hommes sont finalement déçus de tout ce que le royaume de l'Antichrist va avoir été comme établi. Les hommes vont voir comment ça marche, ils vont être déçus. Et l'autorité de la bête, qui est l'Antichrist, et tous ses serviteurs, va commencer à être questionné. Alors, quand le malin va avoir réussi à établir son royaume politique, religieux, il va arriver à un moment donné que le Seigneur va mettre le désordre là-dedans. Et là, les hommes vont commencer à douter. C'est lui qui se pose nous établir l'ordre sur la terre. Ça ne marche plus. Il n'a pas d'ordre. Alors, il va l'autorité de la bête va être questionnée. Son pouvoir va diminuer. Parce que quand l'autorité de quelqu'un est aperçue comme étant divin, on s'aperçoit que ça ne marche plus. Les êtres humains vont dire, ben là, lui, là, l'autorité, le pouvoir commence à diminuer. Tout ce qui était séducteur, la séduction qui l'amenait, va être détruite aussi. Donc, c'est un amoindrissement de tous ses pouvoirs et de toutes ses affaires. Les confiances, les gens n'auront plus confiance au système, ils vont vouloir l'abandonner et ils vont commencer à mettre en doute sa divinité. Parce qu'on se souvient que dans les chapitres précédents, les hommes ont adoré la bête. Adoré, on parle de quelque chose qu'on donne à Dieu. Ils vont vouloir adorer la bête, mais ils vont se rendre compte que dans le fond, c'est pas Dieu, lui. Pas Dieu pantoute, là. Alors, ça va créer des problèmes énormes. La sixième coupe introduit, elle, Armageddon. Lorsque le monde sera rassemblé pour la dernière bataille livrée par Satan contre l'Église, alors, la dernière bataille, le gouvernement mondial antichrétien, il va y avoir un gouvernement mondial qui va être antichrétien. Quand on dit anti-chrétien, là, on parle des véritables chrétiens, pas les chrétiens nominaux, chrétiens de nom, les véritables chrétiens. Et aussi, tu as la religion anti-chrétienne. Actuellement, il y a un mouvement international qui sont en train de vouloir établir une religion mondiale aussi. Christ ne sera pas là-dedans. Alors, quand le gouvernement est le gouvernement mondial antichrétien, la religion antichrétienne, alors que l'Église va être dans un état de détresse extrêmement grand, puis si j'ai raison, puis que les auteurs que j'utilise ont raison, ça se peut que si le Seigneur nous donne encore quelques années, qu'on voit cette période-là. Alors que les enfants de la détresse de l'Église vont être grands, les enfants de Dieu seront opprimés de toutes parts, comme de raison, Dieu va entendre leurs cris. Ils vont crier à l'aide. Et là, ça dit, alors, d'une manière soudaine, Christ apparaîtra pour délivrer son peuple. Cette tribulation finale et cette apparition glorieuse du Christ sur les nuées pour délivrer son peuple. Voilà Armageddon. Alors, le verset 15 là-dedans est un verset clé, un verset très intéressant quand on lit le texte et qu'on s'arrête à l'étudier. Et la septième coupe, elle, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, on parle de la septième coupe, nous décrit de façon très vivante la terreur du jugement dernier. Alors, les rois de l'Est, avec les rois de la Terre, rassemblent toutes les forces antichrétiennes, politiques et religieuses, avec la volonté de les détruire. C'est là que le Seigneur va apparaître. Alors, c'est la chute finale de Babylone et de tous ceux qui ont la marque de la bête. Tout ce qui faisait Leur délice est anéanti. C'est vraiment la manifestation finale de la colère de Dieu. Malgré l'extrême sévérité du jugement divin, les hommes s'endurcissent encore et blasphèment Dieu. Quand on prend la peine d'essayer d'imaginer tout ce que Dieu envoie, là, puis quand les hommes reçoivent ça, en plus de savoir que ça vient de Dieu, ils ne se repentiront pas, ils vont continuer là, ils vont s'endurcir, et non seulement ils vont s'endurcir, mais ils vont blasphémer Dieu, sachant que ça vient de sa main. Ça nous donne-tu une idée jusqu'à quel point l'être humain est corrompu, jusqu'à quel point il est méchant? Même avec tous ces jugements-là, puis ils vont savoir que c'est Dieu qui envoie ça, et plutôt que de se repentir et de demander pardon à Dieu et confesser leurs péchés, ils vont blasphémer. Il y a quelque chose pour nous montrer. Dans l'Apocalypse, si quelqu'un a de la misère avec la doctrine de la corruption du cœur humain, il y a un qui a lire ce passage-là, il va avoir plein son voyage, comme on dit. Alors, on va regarder un petit peu, on avait parlé que c'était intéressant de faire un lien, avant de commencer à étudier à partir du verset 12, de faire un lien, puis d'essayer de regarder qu'est-ce que la Bible nous enseignait concernant toutes ces affaires-là qui étaient pour arriver. Alors, les Saintes Écritures nous instruisent sur la chute de l'homme dans Genèse 3. Et les conséquences épouvantables et permanentes de l'introduction du péché dans la destinée. La mort physique. Ça a commencé là, la mort physique. Aujourd'hui, si les hommes meurent, on voit du monde mourir autour de nous autres à tout moment. La mort physique a été causée par la chute d'Adam et d'Ève dans le jardin. Ensuite, il y a eu la mort spirituelle. Avant, les êtres humains avaient un contact avec Dieu, il y avait une communion avec Dieu. À la chute, c'est mort. On dit, les Écritures nous disent dans Éphésiens qu'on est mort. Spirituellement, là, la Bible nous dit que tous les êtres humains, avant de recevoir la nouvelle naissance, avant d'avoir connu la personne de Jésus-Christ, sont littéralement morts spirituellement. C'est pour ça qu'on dit que si quelqu'un meurt, qui n'a pas connu Christ, qui n'a pas reçu la grâce de Dieu, s'il décède dans cet état-là, vu qu'il est mort spirituellement, il s'en va dans la mort éternelle. Les trois morts ont été introduits par la chute de l'homme. Et le verset 15 du chapitre 3 de la Genèse nous dit que Dieu a donné une solution divine au problème du péché. La venue future du Messie dans la personne de Jésus-Christ. Genèse 3, 14 et 15, là, c'est, si quelqu'un les comprend, là, c'est autrement dit, aujourd'hui, nous, on commence-tu un petit peu à avoir une idée des conséquences tragiques du péché autour de nous autres? C'est énorme! Quand on s'ouvre les yeux aujourd'hui et qu'on regarde ce qui se passe autour de nous, dans nos propres vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos voisins, c'est épouvantable ce que le péché a fait, puis ce qu'il continue de faire. Puis on voit que, au lieu d'avoir une diminution, il y a une augmentation. Plus on approche des temps de la fin, plus c'est difficile, parce que plus le péché augmente, et la gravité du... Hey, ce matin, je vous donne une idée. Ça me remonte à l'esprit, là. Ce matin, j'ai lu sur Internet qu'en France, ils viennent de voter une loi, comme de quoi que le consentement pour la sexualité, c'est plus de 18 ans, c'est 15 ans. Voyez-vous vers où qu'on s'en va? Puis après 15, ça va être quoi? 12? 10? On voit qu'il y a un mouvement qui s'en va de plus en plus en profondeur vers la corruption. Alors, quelque part, ça ne s'en va pas s'améliorant. Mais le Seigneur, prophétiquement, quand l'homme a tombé, Adam et Ève ont tombé, il nous a dit qu'il nous envoyait une solution, puis c'était le Messie. Il dit dans ces mots-là, Genèse 3, verset 14 et 15, « Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi la blessera au talon. On ne rentrera pas dans l'explication de ça ce matin, mais le Seigneur est en train de dire que je vais vous envoyer le Messie, Jésus. Et on prie, comment ça a pris de temps avant qu'il vienne, le Seigneur? Combien d'années? Combien de milliers d'années? Au moins 4000. Alors, le Seigneur, puis quand on lit l'Apocalypse, le Genèse et tous les livres après, Exode, tous les livres de l'Ancien Testament nous parlent de Christ d'une façon ou d'une autre. Si on lit la Bible, puis qu'on oublie ce fait-là, que toutes les pages de la Bible parlent de Christ d'une façon ou d'une autre, symbolique, il y a toutes sortes de... Mais la Bible est remplie, c'est le fil conducteur, jusqu'à ce qu'il arrive à Bethléem, qui naisse, et qu'après ça, on connaît par les évangiles le reste de sa vie, et les explications par les épîtres, Dieu nous explique ce qui s'est passé quand il est venu. Alors, l'Ancien et le Nouveau Testament, fourmis littéralement de versets, qui proclament la victoire finale du Messie Jésus-Christ pour vaincre le péché, vaincre le diable et vaincre le monde hostile à Dieu. Et pour, et finalement, établir son royaume. Jésus-Christ est le thème principal de la Bible et son fil conducteur. L'étude de ce thème reflète richement la sagesse de Dieu et de chacun de ses attributs divins. Si vous prenez une étude complète à partir de la Genèse, là, toutes les livres de l'Ancien Testament qui nous parlent de Christ, on voit combien de fois Satan a voulu s'opposer, permettre de tuer un roi ou de briser sa lignée. Comment Dieu est intervenu là-dedans, c'est de toute beauté. Le Seigneur a permis que tout ça passe à travers. Alors, l'étude du thème, ce serait vraiment la sagesse de Dieu dans toutes les Écritures, non seulement dans l'Ancien, mais dans le Nouveau aussi. J'ai marqué une petite phrase à la page 3. « Prions l'Éternel de nous révéler Jésus-Christ dans les pages de sa sainte parole. » Quand on étudie la parole de Dieu, on peut demander à Dieu, « Seigneur, montre-moi où est Jésus-Christ dans les pages que je suis en train de lire. » Il est là partout, d'une façon ou d'une autre. Je mets ça en relation avec un autre passage du Nouveau Testament, Colossiens, chapitre 2, versets 2 et 3. « Afin que leur cœur soit consolé et lié étroitement ensemble dans la charité, pour être enrichi d'une parfaite intelligence, pour connaître le mystère de Dieu le Père et de Christ, en qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Spécial, hein? Ce verset-là est très spécial. Parce qu'il parle de consoler. Donc, il y a une consolation dans le savoir ces choses-là. Et ça parle de lier aussi. Ça nous lie. Pensez-vous qu'on pourrait continuer à vivre ensemble et à tolérer les uns les autres, à se supporter les uns les autres, si ce n'était de Christ? Ça ne marchera pas. Il dit, après ça, il parle d'enrichir d'une parfaite intelligence, mais pour connaître le mystère de Dieu le Père et de Christ, en qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. Quand on regarde ce que Dieu a fait, ce que Christ a fait, ça nous dit que dans son œuvre, tous les trésors de la sagesse et de la science sont renfermés là-dedans. Il y a-tu de quoi méditer dans ce livre-là, vous pensez? Donc, à quelque part, le jugement divin est prédéterminé prophétiquement et aussi progressivement. Dans l'Ancien Testament, on voit comment Dieu a préparé la venue et l'arrivée de Jésus-Christ dans le monde. Le Nouveau Testament nous décrit et nous explique la vie et l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ, ainsi que la propagation de l'Évangile dans l'espace et dans le temps. Il a eu toute la préparation jusqu'à sa naissance. À sa naissance, il a vécu sur la terre. Il est mort, ressuscité, monté au ciel. Et depuis ce temps-là, Il mène le monde. Il est le roi de l'univers. Et le livre de l'Apocalypse a un seul but, celui de nous montrer qu'il est au contrôle. Ça, là, depuis que j'étudie l'Apocalypse, je suis très encouragé de tout ce qui se passe dans le monde. J'avoue que j'ai traversé des périodes extrêmement difficiles à observer ce qui se passe dans le monde et à connaître des moments de découragement très grands. Le livre de l'Apocalypse est encourageant parce que ça nous le dit, c'est le dévoilement. Apocalypse, ça veut dire enlever le voile. Tu nous montres comment tu es au ciel et comment du ciel tu diriges tout ce qui se passe sur la terre dans les moindres détails, à la fois dans nos vies personnelles, privées, et à la fois dans la vie de tout ce qui se passe sur la terre. C'est-tu rassurant, ça? De savoir que notre grand Dieu, Jésus, aujourd'hui, est au ciel. Puis quand on pense que les hommes ont le contrôle de ce qui se passe, Dieu les utilise comme des instruments. Jésus les utilise comme des instruments. Christ est le roi. Il faut comprendre ça. Et il dirige tout. Pour ça que l'Apocalypse est un livre extrêmement encourageant. Ce n'est pas un livre plein de mystères. C'est un livre qui veut dévoiler. Oui, il y a des difficultés. Personne ne peut nier ça. Mais c'est un livre qui est là pour nous encourager. Donc, progressivement. Le livre de l'Apocalypse est le livre du dévoilement du grand roi Jésus-Christ et comment il fait avancer son royaume depuis son ascension dans le ciel, dans l'histoire des hommes, malgré l'opposition systématique et permanente de Satan et de ses serviteurs. Pensez-vous qu'il ne sait pas ce qui se passe, là, les hommes qui sont en train d'organiser leur gouvernement mondial, leur religion mondiale? Le Seigneur sait tout ça. Il se sert des choses-là. Il contrôle de façon ces choses-là. C'est très rassurant, parce que sinon, si on voit les choses uniquement dans une perspective humaine, on se décourage nettement. « Oh, on ne s'en sortira jamais, ça va être trop puissant, il n'y a rien à faire avec ça. » On oublie la grandeur de Jésus-Christ. Et les Écritures aussi, dans les derniers chapitres qu'on a étudiés, nous parlent dans le livre de l'Apocalypse de 3 x 7. Il y a les 7 sceaux, qui sont les décrets divins qui se rouvrent un derrière de l'autre. Et tu as aussi les 7 trompettes. Donc, les trompettes, c'est Dieu envoie des avertissements. Et les coupes, c'est les jugements. La colère de Dieu qui se déverse d'une façon ou d'une autre, comme on a vu, la nature, et toutes ces choses-là. La chose qu'on va regarder maintenant... Les 4 premières coupes, on avait dit que ça concernait la nature. La 5e, le trône de l'Antichrist. La 6e, la bataille d'Armageddon. Et la 7e, une introduction au jugement dernier. Le 2e point qu'on va regarder, c'est à partir du verset 12 à 16. On voit là-dedans la main. Si je vous posais la question, c'est quoi la providence de Dieu? La providence de Dieu, c'est le déroulement de tous les événements qui se passent sur la terre, à tous les niveaux, depuis la création jusqu'à la fin. Il n'y a rien qui arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Il n'y a rien qui arrive sans que le Seigneur... Autrement dit, ce qu'il est en train de nous dire dans le verset 12, que le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau sécha, pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Alors, Dieu prépare les méchants dans leur plan, et le but de ça, c'est de se servir de leur propre volonté de détruire l'Église pour les détruire eux-mêmes. La doctrine de la Providence nous apprend que le Seigneur lui-même est au contrôle des circonstances des hommes sur la terre. Donc, quand il y a des changements, il utilise les agents de changement. Il connaît les époques, les endroits, les caractères de tous les événements. C'est sous sa direction divine que se produit l'assèchement de l'Euphrate. Alors, l'Euphrate, juste pour vous parler du fleuve de l'Euphrate, le fleuve de l'Euphrate, c'est un fleuve qui mesurait 2900 km de long. Et c'était en quelque sorte le fleuve qui était une frontière entre l'Orient, les peuples de l'Est, et l'Occident. Nous, on est dans l'Occident, on est dans l'Ouest. Et donc, c'était et si tu le mets en 2900 km ou 1800 milles, c'est un fleuve. Ça, c'est un fleuve, mes amis. Quand on parle de sécher, est-ce qu'on parle ici de vraiment l'eau a été enlevée et on parle-tu d'une armée ou si on parle de symboles? Alors, Oxenham, lui, que l'auteur que j'utilise, le principal auteur que j'utilise, est persuadé que la référence à l'Euphrate doit être interprétée symboliquement comme la frontière entre l'Orient. Qu'est-ce qu'il y a à l'Orient? Si on regarde l'Euphrate là, sur une carte, tu avais la Chine, tu avais l'Inde, tu avais les pays musulmans. Tu sais, des fois, on dit, quand on parle des pays musulmans, on dit au Moyen-Orient. Moyen, ça veut dire c'est plus proche de l'Occident. Orient, c'est encore à l'Est. Donc, si tu regardes un petit peu à quoi il fait référence, il parle de la division qui fait la séparation entre l'Occident et l'Orient. Il va être enlevé. L'Occident, on pourrait dire que l'Occident est christianisé. Êtes-vous d'accord avec ça? L'Occident, bon, c'est l'Europe. Et l'Europe ayant venu en Amérique. Donc, l'Occident, la partie ouest, s'est christianisée. Comme l'Angleterre, l'Europe, les États-Unis. L'Occident a historiquement dominé le monde. Vous d'accord avec ça? Que l'Europe, l'Amérique ont dominé le monde historiquement, politiquement, sociologiquement, économiquement, religieusement. Qu'est-ce qui dominait Rome, avec la religion catholique? On était à l'ouest. Et ici, le Seigneur dit qu'il est en train de préparer le terrain pour que la division qui existe entre l'est et l'ouest soit enlevée, pour que l'est, les rois de l'Orient, donc Chine, Inde, pays musulmans, veuillent se réunir dans le but de détruire l'Église. Alors, ça dit dans Oxenham, il dit, « Elles, les nations de l'Orient, vivaient plus ou moins séparées et isolées. Mais le temps viendra, comme l'Écriture nous le dit plus d'une fois, où ces nations prendront une position définitive contre Dieu Tout-Puissant, et son roi pour la bataille, pour détruire l'Église, imposer leur Dieu et dominer le monde. Ce moment est arrivé avec la sixième et la septième trompette. » Sans rentrer dans des affirmations catégoriques et être... Est-ce qu'on voit actuellement qu'il y a une très forte hausse de la puissance politique de la Chine, de l'Est, de l'Orient? Et que ça s'en vient véritablement vouloir conquérir l'Occident et même la conquérir religieusement, politiquement, sociologiquement, monétairement, tous les domaines. Alors, je pense que c'est ça qu'on parle ici. L'Orient, les rois de l'Orient, donc les grands de ce monde qui sont à l'Orient, Dieu va permettre qu'ils veuillent détruire l'Église en se rassemblant pour les détruire, et Dieu va se servir de ça pour... Alors, j'ai mis les références pour les trouver dans Oxenham qui parle de ces choses-là. Alors, la sphère d'influence de l'Occident sera contestée par l'Orient dans tous les domaines. Dieu lui-même a enlevé les obstacles pour permettre au roi de l'Orient de vouloir dominer le monde et de détruire la véritable Église chrétienne. Je ne sais pas si vous voyez l'image un peu, là. C'est ça qui est en train de se passer. Ésaïe 14, versets 21-22. Or, Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'Orient, et il mit la mer à sec. Et les eaux se fendirent, et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux leur formaient une muraille à leur droite, et à leur gauche. On se souvient de ce passage-là. Chose que, quand les théologiens nous disent, remarquez quand est-ce le Seigneur utilise l'image de l'assèchement. On va le voir tantôt. Alors, si on veut savoir tout ça, où est-ce que ça va finir, je pense que la Bible nous donne déjà, on le sait parce qu'on connaît un petit peu les Écritures, on connaît le livre de l'Apocalypse, mais dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, au verset 8 à 10, on voit le sort final de l'Antichrist, du malin, du faux prophète. Ça dit, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Il les assemblera pour combattre, et leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Quand même bizarre, hein? Satan connaît les Écritures. On sait ça par les Écritures. Il sait qu'il est perdant. Il sait que c'est écrit. Il continue quand même son programme. Versets 13 et 14 vont nous montrer comment Dieu va permettre que les forces ennemies, quels moyens ils vont utiliser pour vouloir écraser l'Église. C'est ça que ça dit dans le verset 13 et 14. « Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits immondes semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Je pense que ce qu'on va faire, on va arrêter là aujourd'hui parce que j'aurai sûrement pas le temps de finir aujourd'hui. Alors, on va arrêter là aujourd'hui.